Je m'appelle Adam, premier chant, 9e chapitre du Schneider pour ce monde, verset 23.
Translation by His Divine Grace, Srila Prabhupada. The personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name release the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body.
Le Seigneur suprême, si d'une part il rend perceptible sa présence dans le mental du bhakta, il absorbe en lui avec dévotion, méditant sur lui et chantant ses saints noms, l'affranchit en outre des chaînes du karma lorsque vient pour lui le temps de quitter son corps de matière.
Purport by Srila Prabhupada, yoga means concentration of the mind detached from all other subject matter. And actually, such concentration is samadhi, or 100% engagement in the service of the Lord. And one who concentrates his attention in that manner is called yogi. Such a yogi, devotee of the Lord, engages himself 24 hours daily in the service of the Lord, so that his whole attention is engrossed with the thoughts of the Lord in ninefold devotional service, namely hearing, chanting, remembering, worshipping, praying, becoming a voluntary servant, carrying out orders, establishing friendly relationship, or offering all that one may possess in the service of the Lord. By such practice of yoga or linking up in the service of the Lord, one is recognized by the Lord Himself, as it is explained in the Bhagavad Gita concerning the highest perfectional stage of samadhi. The Lord calls such a rare devotee the best amongst all the yogis. Such a perfect yogi is enabled by the divine grace of the Lord to concentrate his mind upon the Lord with a perfect sense of consciousness. And thus, by chanting his holy name before quitting the body, the yogi is at once transferred by the internal energy of the Lord to one of the eternal planets where there is no question of material life and its concomitant factors. In material existence, a living being has to endure the material conditions of threefold miseries, life after life, according to his fruitive work. Such material life is produced by material desires only. Devotional service of the Lord does not kill the natural desires of the living being, but they are applied in the right cause of devotional service. This qualifies the desire to be transferred in the spiritual sky. General Bhishma Dev is referring to a particular type of yoga called Bhakti Yoga, and he was fortunate enough to have the Lord directly in his presence before his quitting his material body. He therefore desired that the Lord stay before his view in the following verses.
Pratiquer le yoga, c'est concentrer son mental sur un objet unique à l'exclusion de tout autre. Et en vérité, cette concentration absolue, cette absorption totale, doit être pratiquée au service ininterrompu du Seigneur, du Samadhi. Enfin, celui qui pratique cette concentration, qui 24 heures par jour s'absorbe dans le service du Seigneur, de manière telle que son attention, ses pensées tout entières, se portent sur lui, on le nomme yogi ou bhakta. Cette absorption totale au Seigneur, le bhakta la réalise grâce aux 9 phases du service de dévotion. Écouter ce qui touche au Seigneur, le glorifier, le garder présent à sa mémoire, servir ses pieds par les lotus, l'adorer, le prier, se rendre à ses désirs, se lier d'amitié avec lui et engager dans son service tout ce que l'on possède. L'être qui pratique ce yoga, qui s'unit au Seigneur à travers son service, se trouve aussitôt reconnu comme tel par le Seigneur. C'est ce qu'explique la Bhagavad Gita lorsqu'elle traite de la perfection ultime du samadhi. Le Seigneur lui-même dit d'un tel bhakta si rare qu'il est le plus grand de tous les yogis. Le parfait yogi se voit par la divine grâce du Seigneur conférer le pouvoir de concentrer son mental sur lui en toute conscience, ce qui lui permet de chanter sans mal les saints noms au moment de quitter son corps et d'être aussitôt transféré par l'énergie interne du Seigneur sur une des planètes éternelles du monde spirituel, où il ne saurait être question d'existence matérielle ni des conditions qu'elle implique. Cette existence matérielle où l'être doit subir vie après vie et selon son karma les trois formes de souffrance n'est uniquement du désir matériel. Or, le service de dévotion offert au Seigneur, plutôt que de réduire à néant les désirs naturels de l'être, lui permet de les appliquer correctement, c'est-à-dire de les tourner vers la satisfaction du Seigneur. Et quiconque purifie ainsi ses désirs se qualifie dès lors pour atteindre le monde spirituel. Dans notre verset, Bhishmadev, le grand général, fait allusion à un yoga bien précis, le Bhakti Yoga, grâce auquel lui-même eut l'heureuse fortune de voir face à face le Seigneur avant de quitter son corps matériel. Ainsi le verrons-nous au long des versets qui suivent, exprimer au Seigneur son désir de le voir demeurer présent à ses yeux.
Om Agyanati Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Svapadantikam Bandeyaham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavanshcha Shri Rupam Shagrajatam Shahugana Raghunathan Nitang Tvam Sajivam Shadvaitam Shabudhutam Parijana Sakitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Shahugana Lalita Sri Vishakhan Nitang Sacham He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantar Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shute Devi Pranamami Hari Priya Bansha Kalpatav Bharaja Kripa Sindhu Vahe Vaja Patitana Pavani Go Vaishnavi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vaishnavi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Bhishma Dev here is describing how a yogi leaves his body.
Donc Bhishmadev ici il décrit comment un yogi il doit quitter son corps.
A yogi is a person who has become connected to the Supreme Personality of Godhead or who is endeavoring to become connected to the Supreme Personality of Godhead.
Donc un yogi c'est une personne qui est connecté avec Dieu la personne suprême ou qui veut être connecté avec Dieu la personne suprême.
Generally, when we use the expression yoga, we indicate one specific type of yoga known as Ashtanga yoga.
Généralement, quand on parle de yoga, on se réfère à une sorte de yoga précise qui s'appelle l'Ashtanga yoga.
But actually, there are various types of yoga.
En vérité, il y a différentes sortes de yoga.
Any process that links us with the Supreme Personality of Godhead is called yoga.
Toutes sortes de procédés qui nous permet d'être relié à Dieu, la personne suprême, est appelé yoga.
This word yoga actually comes from the Sanskrit word jog. Jog means to become linked up or connected.
Donc yoga vient du mot sanskrit yog, qui veut dire le verbe relier.
Or added.
Ou ajouter.
Like addition unites.
Une addition, ça réunit.
So this Ashtanga yoga system is called Ashtanga yoga because this has 8 different stages of yogic development.
Ashtanga yoga est appelé ainsi parce qu'il est composé de 8 étapes.
Krishna described this particular yoga system in the 6th chapter of Bhagavad Gita.
Ce particulier de yoga est décrit dans le 6e chapitre de la Bhagavad Gita.
This Ashtanga yoga has 8 different stages, namely jam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dhyan, dharan, and samadhi.
Donc ce sont les 8 étapes de l'Ashtanga yoga.
So these are different stages of purification or different stages of practice to become united with the Supreme Personality of God.
Ce sont les différentes étapes qui permettent de se relier à Dieu, la personne suprême.
First, 4 stages are just external purification, internal purification, then the breath control, sitting posture and breath control.
Donc les 4 premières étapes sont simplement une purification extérieure, une purification intérieure, et ensuite des postures physiques, et ensuite contrôler la respiration.
But this breath control is actually so, what to say, like it is actually a very very difficult process.
Ce procédé du contrôle de la respiration en fait est très difficile.
Like our breathing consists of 3 systems. Like one is inhaling, then retaining, and then exhaling.
Les respirations sont faites de 3 phases. La première, c'est d'inspirer, ensuite de retenir la respiration, et ensuite d'expirer.
And a yogi, in this stage of pranayam, he actually stops this system of inhaling and exhaling, and he simply retains the life air within his body.
Le yogi qui arrive à cette étape du contrôle de la respiration, il arrête d'inspirer et d'expirer pour simplement retenir l'air vital.
And until and unless one has actually controlled his respiratory system or breathing process through this practice of pranayama, he cannot meditate. Meditation is impossible.
Et à moins qu'un yogi ne soit pas venu à ce stade où il peut retenir sa respiration, alors il ne peut pas pratiquer la méditation.
And after one has actually practiced or perfected this practice of pranayama, whereby he stops, this practically stops this process of breathing, like he doesn't take any more air, he doesn't give out any more air, he simply retains the air within.
Donc le yogi doit arriver à ce stade où il ne prend plus d'air de l'extérieur ni ne rejette de l'air à l'extérieur, simplement il garde son air vital à l'intérieur.
Then there is the 5th stage of yoga which is known as pratyahara or withdrawal. And Srila Prabhupada mentioned about that in his purport.
Donc à ce moment-là, le yogi arrive à cette étape qu'on peut appeler la pratyahara, qu'on peut appeler la concentration intérieure.
Withdraw. Retract. Yeah, it's called pratyahara. So Prabhupada is saying yoga means concentration of the mind detached from all other subject
matter.
So unless and until one has withdrawn his senses from the objects of the senses, he cannot possibly concentrate his mind on the real object of our concentration. And who is that?
Krishna.
Donc à moins qu'un yogi n'ait retiré toute la concentration de son mental des objets des sens, il ne pourra pas concentrer son mental sur le réel objet de sa méditation qui est Krishna.
So in this stage of pratyahara, a yogi withdraws his senses completely from the objects of the senses and projects his consciousness within his heart.
Donc à ce stade de pratyahara, le yogi retire complètement ses sens de l'observation des objets des sens et pour projeter sa conscience complètement à l'intérieur de son cœur.
And this first stage of meditation, after one has actually withdrawn his senses from the objects of the senses, the first stage is called dhyan, or projecting the consciousness within the heart, or projecting the consciousness unto Krishna.
Ce premier stade de la méditation où le yogi projette sa conscience dans son cœur ou sur Krishna est appelé dhyan.
Then when the concentration becomes fixed, that is called dharana.
Et quand cette concentration devient fixe, alors c'est appelé dharana.
And then the eighth stage, or the final stage of yoga, called samadhi. In that samadhi stage, one is in total spiritual consciousness.
La huitième étape dans laquelle le yogi est dans une parfaite conscience spirituelle est appelée samadhi.
So in this way, after describing the Ashtanga Yoga system, at the end of that chapter, Krishna says, of all the yogis, one who is engaged in my devotional service continuously, he should be considered as the greatest of all yogis.
Et une fois que Krishna a fini de décrire ce procédé de l'Ashtanga Yoga, dans la Bhagavad Gita, et de la fin du chapitre, il explique de tous les yogis, celui qui est avec conscience. Avec une foi totale s'absorbe complètement en moi, celui-là est le plus grand de tous les yogis.
So, Bhishma Dev is speaking here about that kind of a yogi, a perfected yogi. He can leave his body at his will. And at that time, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, appears in front of him.
Donc, Bhishma Dev, un exemple de ce parfait yogi, est arrivé à ce stade, et au moment de sa mort, Krishna lui-même est apparu devant lui.
So, he is saying, Bhishma Dev, I'll read the translation again. The Personality of Godhead, who appears in the mind of the devotee, by attentive devotion and meditation, and by chanting of the holy name, releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body.
Le Seigneur suprême, si d'une part il rend perceptible sa présence dans le mental du Bhakta, qu'il absorbe en lui avec dévotion, méditant sur lui et chantant ses saints mots, l'affranchit en outre des chaînes du karma, lorsque vient pour lui le temps de quitter son corps de matière.
So Prabhupada has pointed out in the purport that Bhishmadeva is actually speaking of a special type of yoga known as bhakti yoga.
Donc Srila Prabhupada dans la tenue rapportée explique que Bhishmadeva ici en train de parler d'une sorte de yoga très particulière qui est appelé le bhakti yoga.
And this bhakti yoga is available, or one can have access to bhakti yoga after one has perfected in the Ashtanga yoga system.
Et on peut pratiquer le bhakti yoga après avoir amené à la perfection sa pratique de l'Ashtanga yoga.
Then the question may arise, then how did we, who never really practiced this Ashtanga yoga system, sometimes some of us may have tried to make a comical imitation of practice of Ashtanga yoga, but then how did we receive this bhakti yoga if this bhakti yoga is beyond Ashtanga yoga?
Donc la question peut se présenter, comment se fait-il que nous qui n'avons pas pratiqué l'Ashtanga yoga, bien que parfois on ait pu essayer quelques imitations de ce yoga, comment se fait-il que nous pratiquons le bhakti yoga alors que ça devrait être le résultat d'avoir amené la pratique de l'ashtanga yoga à sa perfection?
Yeah, the answer to that is that in our case we received it simply by the mercy of a pure devotee of Krishna, Srila Prabhupada.
Donc la réponse à cette question, c'est que dans notre cas, nous avons simplement reçu le bhakti yoga comme une miséricorde de la pure dévot, Srila Prabhupada.
And this devotion to Krishna can be received only actually by the mercy of a devotee.
En fait, cette pure dévotion à Krishna, elle peut être seulement reçue de la part d'un pur dévot.
Pure devotee is like a touchstone, and by coming in contact with a devotee, one becomes completely transformed.
Un pur dévot est comme une pierre philosophale, et simplement en rentrant en contact avec un tel pur dévot, alors on est transformé en dévot lui-même.
Gold is the most precious metal. And the gold is there in the gold mine. But by coming in contact with a touchstone, even base metals become gold.
Donc, de l'or, on peut en trouver dans une mine d'or. Et dans cette mine d'or, tous les minéraux sont d'or. Mais simplement en entrant en contact avec une pierre philosophale, même une simple... Même en rentrant en contact avec un métal ordinaire, ce métal peut devenir de l'or.
I just thought of one thing. Napoleon Bonaparte was famous for being able to do three things at a time. No, four things at a time. Three things at a time.
Quelque chose qui vient à l'esprit de Maharaj, c'est Napoléon Bonaparte était célèbre pour être capable de faire trois choses en même temps.
He could write a letter while riding on a horseback and at the same time plan how, if he's caught, he is going to escape.
Donc il était capable d'écrire une lettre en chevauchant sur un cheval et en même temps faire des plans pour comment s'échapper s'il était attrapé.
But our Aprameya Prabhu can at least do two things at a time. He can chant Hare Krishna Maha Mantra and in the Bhagavatam class. Oh, you're right.
Alors, je sais que Aprameya Prabhu est capable de faire deux choses en même temps.
So So this devotion, bhakti, is the highest thing that a living entity can achieve.
La dévotion à Krishna, c'est la chose la plus élevée qu'un yogi peut atteindre.
Because by this process of bhakti, one can become directly spiritualized and be transferred to the spiritual side.
Parce que par ce procédé de la bhakti, quelqu'un peut se purifier et être transféré au monde spirituel.
So, Bhishma Dev is saying, he is describing the symptoms of such a bhakti yogi, such a devotee. Is that he always meditates upon the Supreme Personality of Godhead with devotion by chanting His holy name.
Et Bhishma Dev décrit les qualités d'un tel yogi et ses caractéristiques. C'est qu'il est toujours en train de méditer sur Krishna en chantant ses saints noms.
So, a sign of a devotee is that he calls out to the Supreme Personality of Godhead.
Donc, une caractéristique d'un dévot, c'est qu'il appelle tout le temps à Dieu, la personne suprême.
And this calling out is chanting his name.
Et comment il appelle Krishna? C'est en chantant ses saints noms.
Just like whenever someone really needs somebody's help, he calls out to him.
Donc, comme quand quelqu'un a besoin de l'aide d'une autre personne, il appelle son nom.
For example, somebody who is really in need of, say, when we are in great difficulty or in great danger, then what do? We call out for help.
Par exemple, quand on est en grande difficulté ou en grand danger, alors on appelle à l'aide.
Or if we need somebody like money or something, then we go to a person and we call out to him and ask him to give it to us.
Nous, quand on a des difficultés d'argent, on va voir quelqu'un, on l'appelle et on lui demande de l'aide.
In this way, there are different ways of approaching a person, but when we approach, the means to approach is actually by calling out to him.
Donc il y a différentes manières d'approcher quelqu'un, mais le moyen commun, c'est quand on approche cette personne, on l'appelle par son nom.
By his name.
On l'appelle par son nom.
So, those who are aware of the Supreme Personality of Godhead and also aware of his difficult situation or of his situation, calls out to him with different intentions and motives.
Donc une personne qui est consciente de l'existence de Dieu et de consciente aussi des difficultés dans lesquelles il est lui-même, il appelle Dieu avec différents motifs.
One may be in great danger, facing a great danger, and he calls out to the Supreme Personality of Godhead, knowing well that he is the most powerful person, so he can save him from that danger.
Et quand on est en danger, on appelle Dieu, sachant que Dieu est la personne la plus puissante qui soit et qui pourra nous sauver.
Or somebody who is in need of money calls out to Krishna in order to get some money.
Quelqu'un qui a besoin d'argent, il va appeler Krishna pour qu'il lui donne cet argent.
Although with various intentions one can call out to Krishna, but the best intention to call Krishna is out of love.
Donc avec quelques intentions on va appeler Krishna, mais la meilleure intention pour appeler Krishna c'est par amour.
And it is actually very important that we call out to Krishna with the right understanding. Like we must call out to him knowing well that if we call out to him, he will hear us and he will respond to our call.
Donc, on doit, on doit appeler Krishna avec la bonne intention, sachant bien que si on appelle Krishna avec amour, il nous répondra.
So actually we must always remember that we chant the holy name of Krishna in order to address him, to call him.
Donc on doit appeler Krishna afin de s'adresser à lui, afin de l'appeler.
We should not just chant the name without our mind being connected to Krishna.
On ne doit pas appeler Krishna, chanter son nom, sans que notre mental pense qu'on l'appelle Krishna.
That is called mechanical chanting, where the syllables of the Krishna Nam comes out, but that is not actually the holy name of the Lord.
Donc il est expliqué qu'on ne doit pas chanter mécaniquement, on ne doit pas chanter les saints noms, ou simplement les syllabes du Saint-Nom sortent de la bouche, mais ce n'est pas vraiment le Saint-Nom.
This name must be addressed to Krishna, and we must chant the name with the understanding that Krishna should, it is meant for Krishna to hear.
Donc on doit chanter le nom de Krishna en pensant vraiment que c'est fait pour que Krishna entende, nous entende chanter son nom.
If we think back, then we can see that so often we just chant mechanically, thinking that somehow or other we have to finish the 16 rounds.
On peut se souvenir comment il nous arrive souvent de chanter les saints noms d'une façon mécanique, en pensant simplement il faut que je finisse ces 16 tours.
And regarding that, Srila Prabhupada said that you should never think that your spiritual master's instruction is a big botheration.
À propos de cela, Srila Prabhupada dit qu'on doit toujours penser que les instructions du maître spirituel sont on ne doit jamais penser que les instructions du maître spirituel sont un fardeau ou une difficulté.
We should not think that somehow or other we have to finish chanting the 16 rounds because we have taken a vow. And it is our duty. Like that is, to have this sense of responsibility for chanting the holy name is good, but it is not the best.
Donc on ne doit pas penser que on doit finir ces tours parce que c'est l'instruction du maître spirituel. Avoir ce sens de la responsabilité de satisfaire ce vœu qu'on a pris est bien, mais c'est pas suffisant, c'est pas bien. C'est pas la mentalité appropriée.
We should actually understand that we got something from our spiritual masters that is rare even for the perfected yogis.
On doit bien penser que ce que nous avons reçu du maître spirituel, c'est quelque chose de rare, même pour les yogis qui ont atteint la perfection.
Because after recognizing Krishna, a perfected yogi sees him as a super soul, and even they do not get the holy name of the Lord. Because this understanding of the Supreme Personality of Godhead through his name is even more rare than recognizing him through his form, as the yogis sometimes do, after attaining the perfection, seeing him as the super soul in the heart.
Parce que le yogi qui atteint la perfection, il peut voir Krishna sous la forme de l'âme suprême dans le cœur, mais à ce moment-là, il n'a pas forcément l'opportunité de chanter son nom. Chanter son nom, c'est le nom de Krishna, c'est une opportunité qui est encore plus rare. Et de pouvoir accéder à la réalisation de l'âme suprême dans le cœur.
We got a very rare opportunity of developing a direct relationship with the Supreme Personality of Godhead through his holy name.
Donc on a obtenu l'opportunité très rare de pouvoir développer une relation avec Dieu la personne suprême à travers le chant de son saint.
And when we chant Krishna's holy name through out of feelings, out of genuine feelings and love for him, then Krishna actually reciprocates.
Et quand on chante le saint nom de Krishna avec le sentiment, alors Krishna il réciproque.
Actually, when one chants the holy name, Krishna reciprocates, but only when one chants purely, Krishna reciprocates purely.
Quand on chante le saint nom, Krishna réciproque, mais quand on chante purement, alors Krishna répond purement.
And the pure reciprocation from Krishna is developing, that he allows us to develop our love for him.
Et cette pure réponse de Krishna, c'est qu'il nous permet de développer notre pur amour pour lui.
So one should be very, very careful to chant the holy name in a pure way. And by chanting the holy name in a pure way, one can develop the most intimate relationship with Krishna in love.
Donc on va être très cautionneux à chanter purement le saint nom. Et en chantant purement le saint nom, on obtient cette précieuse opportunité de développer ce sentiment très intime d'amour pour Krishna.
Here we are seeing how devoted Bhishma Dev was to Krishna. That Krishna responded by coming in front of him at the time of his death.
Et ici on voit comment Bhishma avait un esprit tellement dévoué pour Krishna que Krishna lui-même est venu le voir au moment de sa mort.
Actually, Bhishma Dev is a very, very great personality.
Bhishma Dev est une très grande personnalité.
He is one of the greatest heroes that the world has ever seen.
C'est un des plus grands héros que la Terre ait connu.
Bhishma Dev, at a very young age, got to know that his father became attracted to some lady, but that girl's father agreed to offer his daughter to his father on one condition, that her son, or rather this girl's son, should become the successor to the throne. But his father was so attached to him, Bhishma, that he felt that he can't do that, because Bhishma is the elder son and he must be the successor to the throne.
Donc Bhishma Dev avait appris que son père désirait épouser une jeune fille, et le père de cette jeune fille avait accepté cette proposition, mais à la condition que les descendants, que les enfants de sa fille devaient devenir les héritiers du trône.
Le délai, c'était très jeune, il avait 17 ans.
Bhishma Dev à cette époque-là avait 17 ans. Et
le père a fait une condition que le fils, voilà, cette fille sera l'héritier.
Le père donc avait demandé à une condition que le fils de sa fille serait l'héritier du trône, chose qui était impossible normalement parce que Bhishma Dev était l'aîné et donc était l'héritier légitime.
Et donc le roi ne voulait pas accéder à la route. Je ne voulais donc pas marier la fille à cause de ça. Je ne sais pas, j'ai dépouillé mon fils.
So, when Bhishma Dev got to know about that, he approached the girl's father and he told him that he is going to forgo his claim over the throne and his daughter's son would become the king.
Et donc Bhishmadev a immédiatement renoncé à le fait d'hériter du trône et pour permettre que le fils de cette fille devienne l'héritier du trône.
Il s'est passé du père. Il a dit, oui, je renonce, le fils de ta fille devient le roi.
What's happening? Why don't you listen to us? First you listen and then you translate. So is it clear? I mean, has it been done?
Yeah. So then, this father's, this girl's father then said, okay, you may forgo your claim over the throne, but what about your children? So then Bhishmadev said, okay, I promise that I'll never get married.
Donc le père a dit à ce moment-là, oui, tu as promis que toi tu renonces au trône, mais que dire de tes enfants? Tes enfants, eux, ils réclameront de devenir les héritiers du trône. Alors Bhishmadev a dit, ok, à ce moment-là, je renonce à toute descendance.
And that is why he got the name Bhishma, meaning that one who has taken a terrible vow.
Et c'est pourquoi il a été appelé Bhishma, ce qui veut dire celui qui a pris un vœu terrible.
His original name was Devavrata.
Son premier nom était Devavrata.
And Bhishmadev stuck to his commitment or this vow throughout his life. He remained a celibate throughout his life.
Et Bhishmadev, il a tenu ce vœu toute sa vie. Il est resté un célibataire pendant toute sa vie.
And because of this wonderful vow that he took, for the sake of his father blessed him that he will die only when he wanted to die. Only when he himself desired to die. Otherwise, he will never die.
Du fait de ce vœu formidable qu'il a prononcé, son père lui a donné la bénédiction qu'il quitterait son corps au moment où il déciderait lui-même.
So, later on there had been times when Bhishmadev was requested to, if not at least get married, but to procreate progeny in the womb of his brother's wives.
Bhishmadev lui a été demandé de procréer dans le sein des épouses de son frère.
Through Bhishma's stepmother, Padmavati, or Padmagandha, two sons were born. He had two stepbrothers, Vichitravirja and Chitrangada, and both of them actually died young, and their wives did not have any children. Vichitravirja's wives did not have any children. So the family line was coming to an end. So that same lady, whose father actually made a condition that her son should become the successor to the throne, and Bhishma did not get married, the same lady then told Bhishma that please procreate progeny in the womb of your brother's wives.
Et donc dans le sein de Padmavati,
Padmagandha.
Padmavati, il a renoncé à se marier pour qu'elle puisse avoir l'héritier du trône. Et cette même Padmavati l'a approché en disant, tu devrais faire des enfants dans le sein des épouses de ton frère, parce que eux sont morts jeunes, ils ne peuvent pas avoir d'enfants.
J'ai commencé en expliquant que Padmananda avait eu deux enfants, Vishikandaraya et Sukandaraya, qui étaient morts jeunes. Et Vishikandaraya avait des épouses, et donc Padmananda avait demandé à Bhishma de parce qu'il n'y avait pas de descendance donc, à cette famille, et c'est elle de faire les. J'avais demandé à Bhishma de ne pas avoir de descendants elle-même, et c'est elle qui est venue demander à Bhishma donc de maintenant donner une descendance aux deux épouses de Bhishma.
Very good. Maybe I should speak in shorter sentences. Okay, so, but Bhishma refused. Bhishma said that I have taken a vow and I'm never going to break it.
Donc Bhishma l'a refusé et il a promis il a dit qu'il ne pouvait pas briser ce jeu.
And that is why Vasudev, another son of Padmavati, who she received from a great sage, Parashar, Vasudev actually came and created progeny in their womb, and those progenies were Dhritarashtra, Pandu, and Vidura.
Donc, un autre fils de Padmavati à ce moment-là a été venu, c'est un fils qui avait été obtenu avant par l'union avec le sage Parashar. Et Vyasadeva est venu et il a donné des enfants dans les seins des femmes de Vishukravirya. Et ces enfants ont été Dhritarashtra, Pandu et Vidura.
There were many other incidences in Bhishmadev's life where he said some very, very remarkable examples.
Il y a eu d'autres événements dans la vie de Vishnadev qui ont établi un exemple très remarquable.
Once Vishnadev decided that his brother Vichitravirja should get married, and he was considering some appropriate brides for his brother, and he found out that the princess of the king of Kashi, three daughters of the king of Kashi.
Et lui-même, il avait remarqué alors trois merveilleuses princesses du roi de Kashi, qui étaient pleines de qualité. Et donc, il avait décidé qu'elles devaient devenir les épouses de Vishnu.
So his brother, these girls were being about to be wedded in Swayambara, where the girls would select their own husbands.
Donc ces jeunes filles allaient accomplir un Swayambara où elles allaient choisir leur mari.
Often these Kshatriya princesses were married by either they would select their own husband or some valiant hero would come and forcibly take them away.
Donc, ce mariage se faisait de plusieurs façons. Elle accomplissait une cérémonie Vayambara où elle pouvait choisir leur mari, ou alors un guerrier vaillant venait et les enlevait de la cérémonie.
So, Bhishmadev went to that assembly and he announced who he was, and he said that he was in need of some brides for his brother, so he is claiming these three girls for his brother, and if there is anyone courageous enough can try to come forward and try to stop him.
Donc à ce moment-là, Vishnadev, lui, est arrivé sur l'endroit où allait s'accomplir ce Vayambara, et il a proclamé devant tout le monde qui il était, et il cherchait des épouses pour son frère. Et donc, si quelqu'un voulait s'opposer à ce fait, il pouvait essayer d'en empêcher.
Many, many kings and princesses, or other kings and princes, along with their army, were present there. But Bhishma Dev just picked up these three girls into his chariot and he drove away. And all the kings and with their army gave him a chase.
Donc il y avait là présent beaucoup de rois et de princes avec leurs armées. Et Bhishma Dev, il a simplement ravi les trois princesses, les a mis sur son chariot et il est parti. Et les rois et les armées, leurs armées ont commencé à le poursuivre.
It has been described as just as a lion picks up his prey from the middle of the jackals without any opposition. Bhishma Dev took away these three princesses.
Donc il est décrit que tout comme un lion prend sa proie au milieu d'un groupe de chacals sans que aucun ne s'oppose à lui, de la même façon Bhishma Dev a emporté ces trois princesses.
There was a huge fight between Bhishma and the other kings present there, but Bhishma Dev defeated them all.
Donc il y a une grande lutte entre Bhishma Dev et les rois présents à cet endroit, et Bhishma Dev les a défaits.
But unfortunately, the eldest daughter of Kasiraj, Amba, she gave her heart to one king called Shalva, and she told Bhishma about that, and then Bhishma said, "Okay, then you can go."
L'aînée de cette princesse qui s'appelait Amba, à ce moment-là, a dit qu'elle avait déjà donné son cœur à un roi qui s'appelait Shalva. Et alors Bhishma a dit, bon, c'est bon, tu peux aller le retrouver.
Shalva was already defeated by Bhishma. He tried to rescue his beloved princess, but he was defeated. So when the girl went back to Shalva, Shalva refused to accept her. He said, a lion doesn't accept anyone else's remnants.
Donc, mais Shalva, il venait juste d'être défait par Bhishma, et quand il essayait de venir au secours de sa princesse bien-aimée, et quand elle est arrivée auprès de lui, il a refusé de l'accepter en disant, un lion n'accepte pas les restes d'un autre lion.
So this princess went back to Bhishma and told him that Shalva refused to accept her, and she begged Bhishma to marry her.
Donc Amba est revenue voir Bhishma en expliquant que Shalva l'avait refusé, et elle a imploré Bhishma de l'accepter comme son épouse.
And she told Bhishma that you took me by my hand while pulling me up into the chariot. So when you did that, by just accepting my hand, you actually have accepted me. So I am your wife.
Et elle a dit en fait à Bhishma, quand tu m'as fait monter dans le chariot, tu m'as pris par la main et tu m'as fait monter dans le chariot. Et simplement par ce fait, tu m'as accepté comme ta femme maintenant, donc je dois être ta femme.
So Bhishma explained to her about his vow and told her how he can't marry
her. Bhishma donc a expliqué alors à ce moment-là le vœu qu'il avait fait et lui a dit donc qu'il ne pouvait pas l'épouser.
So being unable to persuade Bhishma Dev, this girl went to Parashuram, who happened to be Bhishma Dev's guru for learning the art of fighting.
Donc, n'ayant pas réussi à persuader Bhishma Dev, Amba est allée voir Parashuram, qui était le maître d'armes de Bhishma Dev.
And she was crying and telling her, giving him the sob story. So Parashuram's heart melted. So he came to Bhishma and said, Bhishma, marry this girl.
Donc, elle pleurait et elle a expliqué toute l'histoire à Parashuram. Et le cœur de Parashuram a fondu. Et donc, il est venu voir Bhishmadev pour le convaincre d'épouser Ramba.
So, Bhishma explained to him how he can't marry her. But Parashuram said, look, I am your spiritual master. I'm your guru, not exactly spiritual master. He said, I'm your guru, so you must accept my instruction.
Alors Bhishmadev a répondu qu'il avait fait ce vœu, qu'il ne pouvait donc pas accepter d'épouse. Et Parashuram lui a dit, je suis ton gourou, donc tu dois accepter mon instruction.
And since you are accepting her on my order, in spite of your vow, there won't be any sin involved.
Et Parashuram a continué en expliquant, comme tu es mon disciple, je te donne cette instruction et en l'épousant cette princesse, la conséquence de briser ce que ton vœu n'aura pas lieu.
So, Parashuram then insisted, no Bhishma, you must, oh no, Bhishma refused and then Parashuram insisted, that no, you must get married. I am telling you. I am your guru.
Donc Bhishmadev a encore refusé et Parashuram a insisté en disant non, tu dois accepter, je suis ton gourou, tu dois accepter.
Then Bhishmadev said that famous verse, Guru Rappa Avaliptasya Karja Karja Majanata Utpatha Gamina Parityaga Vidhyate. That when the guru doesn't know what should be done and what should not be done, and he gives wrong advice, then that guru must be rejected.
C'est à ce moment-là que Bhishmadev a énoncé ce verset très célèbre, que quand un gourou ne sait plus ce qu'il faut faire ou ne pas faire, alors un tel gourou doit être rejeté.
So Parashuram got very angry. He said, you dare to speak to me like this? I will teach you a lesson.
Donc Parashuram est très en colère. Il a dit, tu oses parler ainsi à ton gourou, je vais te donner une leçon.
So you must remember who is Parashuram. Parashuram already wiped out the Kshatriyas from the surface of the earth 21 times. He's such a powerful personality. He was an incarnation of the Supreme Personality of God.
À ce moment-là, on doit se rappeler qui est Parashuram. Parashuram est celui-là-même qui avait détruit toutes les dynasties de Kshatriya à 21 reprises. Parashuram était une incarnation de la personne suprême.
So there was a huge fight between Parashuram and Bhishma, and Parashuram couldn't defeat Bhishma.
Il y a une grande lutte entre Parashuram et Bhishma, et Parashuram n'a pas réussi à vaincre Bhishma.
So Parashuram became very pleased with Bhishma. And said, Bhishma, I'm pleased the way you're fighting. What do you want? Ask for any boon.
Donc Parashuram a dit à Bhishma, j'ai été satisfait par la manière de te battre. C'est maintenant, demande-moi une bénédiction.
Then Parashuram said, and then Bhishma said, okay, give me the boon that you're going to stop fighting. So that's how, and you're not going to require, ask me to marry her.
Donc,
so Parashuram stopped fighting. So this is how Bhishmadev set such a wonderful example how to maintain his vow of celibacy.
Donc, quand Parashuram a demandé à faire une bénédiction à Bhishma, Bhishma lui a demandé s'il te plaît tu arrêtes de combattre et ne demande plus de marier. Et donc, Parashuram s'est arrêté de se battre. Et c'est ainsi que Bhishmadev il a établi un tellement bon exemple.
So I'll stop now. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Does anybody have any comment or question? Yes, Jagannathan.
Thank you.
Now
I have some difficulty to understand.
No,
he disobeys goes out of the
recognizing Krishna, a perfect yogi sees him as a super soul, and even they do not get the holy name of the Lord. Because this understanding of the Supreme Personality of Godhead through his name is even more rare than recognizing him through his form, as the yogis sometimes do after attaining the perfection, seeing him as the super soul in the heart.
Parce que le yogi qui atteint la perfection, il peut voir Krishna sous la forme de l'âme suprême dans le cœur, mais à ce moment-là, il n'a pas forcément l'opportunité de chanter son nom. Chanter son nom, c'est le nom de Krishna, c'est une opportunité qui est encore plus rare que de pouvoir accéder à la réalisation de l'âme suprême dans le cœur.
We got a very rare opportunity of developing a direct relationship with the Supreme Personality of Godhead through his holy name.
Donc on a obtenu l'opportunité très rare de pouvoir développer une relation avec Dieu, la personne suprême, à travers le chant de son saint.
And when we chant Krishna's holy name through out of feelings, out of genuine feelings and love for him, then Krishna actually reciprocates.
Et quand on chante le saint nom de Krishna avec le sentiment, alors Krishna il réciproque.
Actually, when one chants the holy name, Krishna reciprocates, but only when one chants purely, Krishna reciprocates purely.
Quand on chante le saint nom, Krishna réciproque, mais quand on chante purement, alors Krishna répond purement.
And that pure reciprocation from Krishna is developing, that he allows us to develop our love for him.
Et cette pure réponse de Krishna, c'est qu'il nous permet de développer notre pur amour pour lui.
So one should be very, very careful to chant the holy name in a pure way. And by chanting the holy name in a pure way, one can develop the most intimate relationship with Krishna in love.
Donc on va être très précautionneux à chanter purement le saint nom, et en chantant purement le saint nom, on obtient cette précieuse opportunité de développer ce sentiment très intime.
Here we are seeing how devoted Bhishma Dev was to Krishna, that Krishna responded by coming in front of him at the time of his death.
Et ici on voit comment Bhishma avait un esprit tellement dévoué pour Krishna que Krishna lui-même est venu le voir au moment de sa mort.
Actually, Bhishma Dev is a very, very great personality.
Bhishma Dev est une très grande personnalité.
He is one of the greatest heroes that the world has ever seen.
C'est un des plus grands héros que la terre ait connu.
Bhishma Dev, at a very young age, got to know that his father became attracted to some lady. But that girl's father agreed to offer his daughter to his father on one condition, that her son, or rather this girl's son, should become the successor to the throne. But his father was so attached to him, Bhishma, that he felt that he can't do that, because Bhishma is the eldest son and he must be the successor to the throne.
Donc Bhishma Dev avait appris que son père désirait épouser une jeune fille, et le père de cette jeune fille avait accepté cette proposition, mais à la condition que les descendants, que les enfants de sa fille devaient devenir les héritiers du trône.
Il était très jeune, il avait 17 ans. 17.
17. Bhishmadev, à cette époque-là, avait 17 ans. Et
le père a fait une condition que le fils, voilà, cette fille sera l'héritier.
Le père donc avait demandé à une condition que le fils de sa fille serait l'héritier du trône, chose qui était impossible normalement parce que Bhishmadev était l'aîné et donc était l'héritier légitime du trône.
Et donc le roi ne voulait pas accéder à la résistance. Je ne voulais donc pas marier la fille à cause de ça. Je ne pas dédier mon fils du trône.
Son père ne voulait pas.
So, when Bhishmadev got to know about that, he approached the girl's father and he told him that he is going to forgo his claim over the throne and his daughter's son would become the king.
Et donc le Bhishmadev a immédiatement renoncé à le fait d'hériter du trône et pour permettre que le fils de cette fille devienne l'héritier du trône.
Et sa personne, le père, il a dit, je renonce, le fils de ta fille devient le roi.
What's happening? Why don't you listen to us? First you listen and then you translate.
So is it clear? I mean, has it been done? So then this girl's father then said, okay, you may forgo your claim over the throne, but what about your children? So then Bhishmadev said, okay, I promise that I'll never get married.
Donc le père a dit à ce moment-là, oui, tu as promis que toi tu renonces au trône, mais que dire de tes enfants? Tes enfants, eux, ils réclameront de devenir les héritiers du trône. Alors Bhishmadev a dit, ok, à ce moment-là, je renonce à toute descendance.
And that is why he got the name Bhishma, meaning that one who has taken a terrible vow.
Et c'est pourquoi il a été appelé Bhishma, ce qui veut dire celui qui a pris un vœu terrible.
His original name was Devavrata.
Son premier nom était Devavrata.
And Bhishmadev stuck to his commitment or this vow throughout his life. He remained a celibate throughout his life.
Et Bhishmadev, il a tenu ce vœu toute sa vie. Il est resté un célibataire pendant toute sa vie.
And because of this wonderful vow that he took, for the sake of his father blessed him that he will die only when he wanted to die, only when he himself desired. Otherwise, he will never die.
Du fait de ce vœu formidable qu'il a prononcé, son père lui a donné la bénédiction qu'il quitterait son corps au moment où il déciderait lui-même. Autrement, il ne mourrait pas lui-même.
So, later on, there had been times when Bhishmadev was requested to, if not at least get married, but to procreate progeny in the womb of his brother's wives.
Un autre moment, Bhishmadev lui a été demandé de procréer dans le sein des épouses de son frère.
Through Bhishma's stepmother, Padmavati, or Padmagandha, two sons were born. He had two stepbrothers, Vichitravirja and Chitrangada. And both of them actually died young. And their wives did not have any children. Vichitravirya's wives did not have any children. So the family line was coming to an end. So that same lady, whose father actually made a condition that her son should become the successor to the throne, and Bhishma did not get married, the same lady then told Bhishma that please procreate progeny in the womb of your brother's wives.
Et donc, dans le sein de Padmavati,
Padmavanda,
Padmavati, elle a renoncé à se marier pour qu'elle puisse avoir l'héritier du trône. Et cette même Padmavati l'a approchée en disant tu devrais faire des enfants dans le sein des époux de ton frère, parce que eux sont morts jeunes et ne peuvent pas avoir d'enfants.
J'ai commencé en expliquant que Padmavanda avait eu deux enfants, Vishuddhavaya et Vishuddhavaya, qui étaient morts jeunes. Vishuddhavaya avait des épouses, et donc Padmavanda avait demandé à Bhishma de parce qu'il n'y avait pas de descendance donc à cette famille, et c'est elle qui avait elle a demandé à Bhishma de ne pas avoir de descendants elle-même, et c'est elle qui a demandé à Bhishma donc de maintenant donner une descendance aux deux épouses de Vishvamitra.
Very good. Maybe I should speak in shorter sentences. Okay, so, but Bhishma refused. Bhishma said that I have taken a vow and I'm never going to break it.
Donc Bhishma va refuser, et il a promis il a dit qu'il ne pouvait pas briser ce vœu.
And that is why Vasudev, another son of Padmavati, who she received from a great sage, Parashar, Vasudev actually came and created progeny in their womb, and those progenies were Dhritarashtra, Pandu and Vidura.
Donc un autre fils de Padmavati à ce moment-là était venu, c'était un fils qui avait été obtenu avant par l'union avec le sage Parasha. Et donc Vyasadeva est venu et il a donné des enfants dans les seins des femmes de Vishuddhavirya. Et ces enfants ont été Dhritarashtra, Pandu et Vidura.
There were many other incidences in Bhishmadev's life where There were many other incidences in Bhishmadev's life where he set some very, very remarkable examples.
Il y a eu d'autres événements dans la vie de Bhishmadev qui ont établi un exemple très remarquable.
Once Bhishmadev decided that his brother Vichitravirya should get married, and he was considering some appropriate brides for his brother, and he found out that the princess of the king of Kashi, princess of Kashi, three daughters of the king of Kashi.
Lui-même il avait remarqué alors trois merveilleuses princesses du roi de Kashi, qui était pleine de qualité, et donc il avait décidé qu'elle devait devenir les épouses de Vichitravirya.
So his these girls were being weighed, about to be weighed in Swayambara, where the girls would select their own husbands.
Donc cette jeune fille allait accomplir un svayambhara où elle allait choisir leur mari.
Often these kshatriya princesses were married by either they would select their own husband or some valiant hero would come and forcibly take them away.
Donc ce mariage se faisait de plusieurs façons. Elle accomplissait une cérémonie svayambhara où elle pouvait choisir leur mari, ou alors un guerrier valiant venait et les enlevait de la cérémonie.
So Bhishma Dev went to that assembly and he announced who he was and he said that he was in need of some brides for his brother, so he is claiming these three girls for his brother, and if there is anyone courageous enough can try to come forward and try to stop him.
Donc à ce moment-là, Bhishma Dev lui est arrivé sur l'endroit où allait s'accomplir ce svayambhara et il a proclamé devant tout le monde qui il était et qu'il cherchait des épouses pour son frère. Et donc si quelqu'un voulait s'opposer à ce fait, il pouvait essayer d'en empêcher.
Many, many kings and princesses, or the kings and princes, along with their army were present there. But Bhishma Dev just picked up these three girls into his chariot and he drove away. And all the kings and with their army gave him a chase.
Donc il y avait là présent beaucoup de rois et de princes avec leurs armées. Et Bhishma Dev, il a simplement ravi les trois princesses, les a mis sur son chariot et les partit. Et les rois et les armées et leurs armées ont commencé à le poursuivre.
It has been described just as a lion picks up his prey from the middle of the jackals without any opposition, Bhishma Dev took away these three princesses.
Donc il est décrit que tout comme un lion prend sa proie au milieu d'un groupe de chacals sans qu'aucun ne s'oppose à lui, de la même façon Bhishma Dev a emporté ses trois princesses.
There was a huge fight between Bhishma and the other kings present there, but Bhishma Dev defeated them all.
Donc il y a eu une grande lutte entre Bhishma Dev et les rois présents à cet endroit, et Bhishma Dev les a défaits.
But unfortunately, the eldest daughter of Kasiraj, Amba, she gave her heart to one king called Shalva, and she told Bhishma about that, and then Bhishma said, okay, then you can go.
L'aînée de ces princesses, qui s'appelait Amba, à ce moment-là, a dit qu'elle avait déjà donné son cœur à un roi qui s'appelait Shalva, et alors Bhishma a dit, bon, c'est bon, tu peux aller le trouver.
Shalva was already defeated by Bhishma. He tried to rescue his beloved princess, but he was defeated. So when the girl went back to Shalva, Shalva refused to accept her. He said, a lion doesn't accept anyone else's remnants.
Donc, mais Shalva est venu juste d'être défait par Bhishma, et quand il essayait de venir au secours de sa princesse bien-aimée. Et quand elle est arrivée auprès de lui, il a refusé de l'accepter en disant un lion n'accepte pas les restes d'un autre lion.
So this princess went back to Bhishma and told him that Shalva refused to accept her and she begged Bhishma to marry her.
Donc Amba est revenue voir Bhishma en expliquant que Shalva l'avait refusé et elle a imploré Bhishma de l'accepter comme son épouse.
And she told Bhishma that you took me by my hand while pulling me up into the chariot. So when you did that, by just accepting my hand, you actually have accepted me. So I'm your wife.
Et elle a dit en fait à Bhishma, quand tu m'as fait monter dans le chariot, tu m'as pris par la main et tu m'as fait monter dans le chariot. Et simplement par ce fait, tu m'as accepté comme ta femme maintenant, donc je dois être ta femme.
So Bhishma explained to her about his vow and told her how he can't marry her.
Et Bhishma donc a expliqué alors à ce moment-là le vœu qu'il avait fait et lui a dit donc qu'il ne pouvait pas l'épouser.
So being unable to persuade Bhishma Dev, this girl went to Parashuram, who happened to be Bhishma Dev's guru for learning the art of fighting.
Donc, n'ayant pas réussi à persuader Bhishma Dev, en bas, elle est allée voir Parashuram, qui était le maître d'armes de Bhishma Dev.
And she was crying and telling her, giving him the sob story. So Parashuram's heart melted. So he came to Bhishma and said, Bhishma, marry this girl.
Donc elle pleurait et elle a expliqué toute l'histoire à Parashuram. Et le cœur de Parashuram a fondu. Et donc il est venu voir Bhishma Dev pour le convaincre d'épouser Amba.
So Bhishma explained to him how he can't marry her. But Parashuram said, look, I am your spiritual master, I'm your guru, not exactly spiritual master. He said, I'm your guru, so you must accept my instruction.
Alors Bhishma Dev a répondu qu'il avait fait ce vœu et qu'il ne pouvait donc pas accepter l'épouse. Et Parashuram lui a dit, je suis ton guru, donc tu dois accepter mon instruction.
And since you are accepting her on my order, in spite of your vow, there won't be any sin involved.
Parashuram a continué en expliquant, comme tu es mon disciple, je te donne cette instruction, et en épousant cette princesse, la conséquence de briser ce que ton vœu n'aura pas lieu.
So, Parashuram then insisted, no, Bhishma, you must. Oh, no, Bhishma refused, and then Parashuram insisted, then no, you must get married. I am telling you, I am your guru.
Donc Bhishma Dev a encore refusé, et Parashuram a insisté en disant, non, tu dois accepter. Je suis ton guru, tu dois accepter.
Then Bhishma Dev said that famous verse, Guru Rappa Avaliptasya. Karja karja majanato utpatra gamina purityago vidhyate. That when the guru doesn't know what should be done and what should not be done, and he gives wrong advice, then that guru must be rejected.
C'est à ce moment-là que Bhishma Dev a énoncé ce verset très célèbre, que quand un guru ne sait plus ce qu'il faut faire ou ne pas faire, alors, un tel guru doit être rejeté.
So Parashuram got very angry. He said, you dare to speak to me like this? I will teach you a lesson.
Donc Parashuram est très en colère. Il a dit, tu oses parler ainsi à ton guru, je vais te donner une leçon.
So you must remember, who is Parashuram? Parashuram already wiped out the Kshatriyas from the surface of the earth 21 times. He's such a powerful personality. He is an incarnation. He was an incarnation of the Supreme Personality.
À ce moment-là, on doit se rappeler qui est Parashuram. Parashuram est celui-là-même qui avait détruit toutes les dynasties de Kshatriya à 21 reprises. Parashuram était une incarnation de la Personne Suprême.
So there was a huge fight between Parashuram and Bhishma, and Parashuram couldn't defeat Bhishma.
Il y a une grande lutte entre Parashuram et Bhishma. Le Parashuram n'a pas réussi à vaincre Bhishma.
So Parashuram became very pleased with Bhishma and said, Bhishma, I'm pleased the way you're fighting. What do you want? Ask for any boon.
Donc Parashuram a dit à Bhishma, j'ai été satisfait par la manière de te battre. Et c'est maintenant, demande-moi une bénédiction.
Then Parashuram said, and then Bhishma said, okay, give me the boon that you're going to stop fighting. So that's how, and you're not going to require, ask me to marry her. No, so Parshuram, stop fighting. So this is how Bhishmadev set such a wonderful example, how to maintain his vow of celibacy.
Donc Parashuram a demandé à faire une bénédiction à Bhishma. Bhishma lui a demandé s'il te plaît tu arrêtes de combattre et ne me demande plus de me marier. Et donc Parashuram s'est arrêté de se battre. Et c'est ainsi que Bhishma il a établi un tellement bon exemple.
So I'll stop now. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada. Does anybody have any comment or question? Yes, Jagannath.
Thank you. Now I have some difficulty to understand. He disobeys God's order. You elaborate on this point because also he made a vow. Is it a vow superior to you?
Donc, on vous demande si Maharaj peut nous éclairer sur le fait que Bhishmadev il est refusé de suivre l'instruction de son maître spirituel simplement pour pouvoir suivre un vœu. Est-ce que le vœu donc était supérieur à l'instruction de maître spirituel?
You see, the spiritual master's business is to take the disciple to the Supreme Personality of God. Now, if he doesn't do that, but gives advice which is actually detrimental to that, that's why Bhishmadev said that he should be rejected.
Donc, le devoir du maître spirituel, c'est de ramener son disciple auprès de Dieu, la personne suprême. Donc, si le maître spirituel donne un conseil qui semble au détriment de ce but, alors le disciple doit rejeter son maître spirituel. Et c'est ce que Vishnadev a fait.
Yes.
If the cause of our devotional service is the mercy of the devotee and not Ashtanga, etc.
Yes.
Then still the question remains, why does someone get the mercy of the devotee and another one doesn't get the mercy of the devotee?
Donc quand on parlait de l'Ashtanga Yoga, vous expliquez que de devenir un dévot, c'était par la miséricorde d'un autre dévot. Alors comment se fait-il qu'il y a deux personnes qui reçoivent cette miséricorde d'un dévot, et qu'il y en ait d'autres qui ne reçoivent pas la miséricorde d'un dévot?
The first consideration is that a devotee, one receives the mercy of a devotee due to his Agyata Sukriti.
Donc il y a une première considération, c'est que on reçoit la miséricorde d'un dévot grâce à notre Agyata Sukriti.
And the second consideration is that the devotee's mercy is flowing for everyone, but it is up to the individual who is willing to receive it.
Une deuxième considération, c'est que la miséricorde du dévot, elle s'écoule, elle est distribuée à tout le monde également, mais c'est à chaque personne de saisir cette miséricorde ou pas.
Just like the sun is in the sky, but we have to open our eyes to receive the sunlight. Or there may be torrents of rain and we may be thirsty, but we have to cup our hands to collect the water. So that's the endeavor that an individual must do. And receiving the mercy depends upon that.
Donc, l'exemple est donné du soleil qui brille pour tout le monde, mais pour voir le soleil, il faut lever la tête et ouvrir les yeux. Ou quand l'exemple aussi de la pluie, quand la pluie tombe et si on a soif, il faut qu'on fasse l'effort de joindre les mains et de porter l'eau à notre bouche. Donc, cette miséricorde est accessible suivant ce petit effort qui est nécessaire.
A devotee doesn't think that I will give my mercy to this individual and I will not give it to this individual. No, he is equally distributing his mercy. But due to the eagerness of the individual, he is able to receive that mercy.
Un dévot ne distribue pas la miséricorde à une personne et ne veut pas la distribuer à un autre. Non, il distribue également à tout le monde sa miséricorde. Mais tout dépend de l'anxiété de l'autre personne de prendre cette miséricorde ou pas.
This eagerness can be classified in two ways. One is Shraddha. One purchases the devotion or the holy name with the price of faith that one has. And the other is Lolam, greed to receive it. So the more Shraddha and more greed one has, the more of this devotion he will be able to receive.
Donc c'est une anxiété de prendre la miséricorde d'un dévot sous deux formes, Shraddha et Lolya. La première c'est d'avoir la foi, d'accepter cette miséricorde. Et la deuxième c'est d'avoir un désir ardent, une avidité de la prendre.
Other than the question remains, what is the cause of Akyat Sukriti, and what is the reason that one is either picked up the lens and the other, or has Shraddha and the other has not?
Yeah.
À propos de Akyat Sukriti,
la question reste.
Okay, what is Agyata Sukriti and why someone is
the cause of
Agyata Sukriti? Yeah. And why some individuals are developing the Shraddha and some and greed and some are not? Yeah, the answer is that the cause of Agyata Sukriti is again mercy of a devotee. But this mercy of a devotee initially is received without being aware of it. So, like, unknowingly we did something good for a devotee.
Donc, quelle est la cause de l'Agyata Sukriti? Si vous ne voyez pas le rapport avec le développement, comment peut se développer cette foi ou comment peut se développer l'avidité pour recevoir une miséricorde de Dieu. Donc Maharaj répond que cette Agyata Sukriti, c'est que d'une manière inconsciente, on a reçu la miséricorde d'un dévot en faisant inconsciemment quelque chose pour cette miséricorde.
To give some examples of Agyata Sukriti is somebody, it's raining outside and a devotee is just getting drenched. So the person in the house, he sees the devotee and he asks him, come, take shelter in my house. Now he didn't do it with the awareness that, oh, here is a devotee, I must render service to him. He would have probably done it to anyone. But because that person happened to be a devotee, he gets okay.
Donc un exemple de cette agression sophistique, c'est qu'une personne, il pleut, il y a un dévot et sous la pluie, il est mouillé, et une personne à l'intérieur d'une maison voit ce dévot et lui propose de rentrer et de se mettre à l'abri. Donc cette personne-là n'a pas fait en ayant conscience que ça c'est un dévot, il faut que je lui offre mon service, il l'aurait sûrement fait pour n'importe quelle personne, et le fait qu'il ait offert ce service à un dévot,
another example of Agyata Sukriti is once a thief went to steal the ornaments of Krishna from a temple. But while going, he got some mud was sticking to his foot. So there was a some part of the temple was broken in the floor, some part of the floor was broken, that there was a crevice, and he rubbed his feet to get rid of the mud. But while doing that, he filled up that crevice with the mud. That became an object.
Un autre exemple d'anecdote asyncritique, c'est un voleur qui était venu pour voler les bijoux de Krishna dans le temple. Mais quand il était venu, il y avait de la boue qui s'était mise sur ses chaussures. Et il est arrivé dans le temple, sur ses pieds. Quand il est rentré dans le temple, il y avait une petite cavité entre les pierres du temple. Et il a frotté ses pieds pour à cet endroit pour rentrer et la boue qui s'est mise dans le trou a bouché le trou et c'est devenu son Agata Sukriti.
Sanatan Goswami gives the Agata Sukriti through the story of Prahlad Maharaj. In his previous life, Prahlad Maharaj went with his girlfriend for a picnic. And he just he selected a spot in the forest, which happened to be a Nrisimha temple. And he, just for to sit down and have a picnic, he cleaned up the place. And then he had a fight with this girl. So he was so upset that he didn't eat anything. The whole picnic was spoiled, he didn't eat anything. And he stayed up the whole night, he couldn't sleep. Now that day happened to be the day of Nrisimha Chaturdasi. And because they cleaned the Lord Nrisimha temple on a Nrisimha Chaturdasi day and fasted and stayed up the whole night, he got the Agata Sukriti.
Donc, un autre exemple d'Agata Sukriti a été donné par Sanatana Goswami, qui expliquait que Prahlad Maharaj, dans sa vie précédente, il était avec sa petite amie. Il était allé à un endroit dans une clairière qui auparavant avait abrité un temple de Nrisimhadev et il a commencé à nettoyer l'endroit et puis d'une manière ou d'une autre il s'est disputé avec cette petite amie et donc il a jeûné, il n'a pas pris le pique-nique qu'ils avaient prévu et il est resté éveillé même toute la nuit mais il s'est avéré que ce jour-là était le jour de Nrisimha Chaturdasi. Donc, pour avoir nettoyé le temple de Nrisimhadev ce jour-là, avoir jeûné et rester éveillé toute la nuit, c'était son Agata Sukriti.
And about why someone develops Lolam and Shraddha, the answer will be it is due to Agata Sukriti. This, some Agata Sukriti, like for example, because of this, Prahlad Maharaj received the mercy of Narada Muni and became a pure devotee.
Et pourquoi quelqu'un développe Shraddha ou Lolam, c'est à cause de Agata Sukriti, tout comme Prahlad Maharaj, par son Agata Sukriti, il a reçu la miséricorde de Narada Muni.
Now, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur makes another very nice point in this respect in his Madhurya Kadambini. He is explaining that it is due to Bhakti Devi. Bhakti Devi is offered by the devotee. So one develops devotion because the devotee actually gives him the mercy of Bhakti Devi.
Donné par un dévot. C'est le dévot qui donne bhakti à autrui.
And a madhyamadhikari devotee, he is discriminating. Like, he is discriminating between innocent, devotee, innocent, and offender.
Un adhyam adhikari, il fait une discrimination entre un dévot, une personne innocente et une personne offensante.
So one who is offensive he avoids him. But he bestows his mercy upon the innocent.
Une personne offensante, il l'évite, alors qu'une personne innocente, il répand ses miséricordes.
And then he said that the devotee's mercy is always flowing. So, but there's some periods in history when there's no mercy at all. So that
is it? No, Prabhupada is saying that a pure devotee is always present.
Maharaj vous expliquait que la miséricorde du dévot s'écoule, mais il y a des moments dans l'histoire où il n'y a pas de dévot. Maharaj répond que je ne pas expliquer qu'il n'y a aucun moment où il n'y a pas de pur dévot sur la planète.
But that's actually a good point that it just struck me. Now one question may arise, then what about the Western countries? Devotion was not actually available. Yes, that's true. That's why Bhakti Devi decided to come to the foreign countries. This has been explained in Padma Puran, in Bhagavad Mahatma.
Donc, en fait, la question est valable quant aux pays occidentaux. Dans les pays occidentaux, il n'y avait pas de dévotion. Et c'est pourquoi Bhakti Devi a décidé de venir dans les pays d'Occident. C'est ce qui est expliqué dans la section Bhagavat Mahatmya du Padma Puran.
Bhakti Devi was discussing with Narad Muni, and she explained that she became so disgusted with India that she, due to the age of Kali, that she would go to other countries. And this is how we can see that the prediction also was made in Padma Purana about Prabhupada's appearance. That he would carry Bhakti Devi to the other countries of the world.
Donc Bhakti Devi était en train de parler à Narada Muni et expliquait qu'il était tellement dégoûté par la condition de l'Inde pendant laquelle il va qu'elle voulait aller en Occident. Et c'est comme ça qu'on peut voir que le Padma Purana a donné une prédiction de la venue de Srila Prabhupada qui a amené la Bhakti en Occident. On a beaucoup de services et c'est difficile de chanter ses tours, on a des tours à chanter le soir, mais c'est difficile de vraiment pouvoir se concentrer dans nos tours. Dans une voiture, par exemple, on va chanter.
Est-ce que c'est mieux de chanter, de garder pour plus tard pour aller se concentrer?
Est-ce que c'est mieux de chanter ses tours ou de les garder pour plus tard, à un moment on pourra mieux les chanter?
We should try as much as possible chant our rounds the best possible.
Donc on va essayer autant que possible à chanter nos tours de la meilleure façon qui soit.
Service is important, but chanting also is important. Both are equally important.
Le service est important, mais le chant aussi est important. Tous les deux sont également importants.
And we should make it a point to finish our 16 rounds at least every day.
Donc on doit vraiment se tenir à finir nos 16 tours tous les jours.
Okay, I'll stop now. Nice. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada.
Jai Bhakti Charu Maharaj Ki.
Srila Prabhupada Ki. All glories to Krishna Guru.